9h10, l'heure de Culture Vive, présentée aujourd'hui par Catherine Fruchon-Toussaint. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour.
La fête commence.
Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture Vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture Vive, Catherine Fruchon-Toussaint.
Rire, courir, se divertir et découvrir. Voilà le programme du jour. Avec deux hommes de théâtre pour commencer, le comédien Jacques Weber, seul en scène actuellement à Paris pour déclamer les textes des grands auteurs classiques. Ensuite, nous retrouverons en deuxième partie Jean-Louis Martinelli, qui a proposé la saison dernière à Nanterre sa version de la pièce de Feydeau intitulée Les fiancés de Loche. Juste après, place à la littérature et au sport avec Jean Echenoz, qui il y a quelques mois a publié un texte en hommage au grand coureur Émile Zatopek. Et puis nous allons dans quelques instants à Lussas en Ardèche, où se tient toute cette semaine le 21e festival du documentaire, dont une sélection met à l'honneur les films produits en Pologne. Mais bien sûr, tout de suite, le téléphone sonne à...
Amsterdam.
Bonjour Joanna Hauschstein.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler aujourd'hui d'une exposition bien particulière qui se déroule actuellement au centre artistique de Beurs van Berlage d'Amsterdam depuis le 5 juillet dernier. Alors particulière parce qu'elle réunit pour la toute première fois presque l'intégralité de l'œuvre d'un des plus grands peintres néerlandais du XVIIe siècle, Rembrandt, évidemment, d'où le titre de cette exposition, The Complete Rembrandt. Et c'est le professeur Ernst van de Wettering qui dirige le projet de recherche sur Rembrandt, qui est à l'origine de cet événement. Mais tout d'abord, Joanna, ce sont donc près de 700 œuvres qui sont réunies ici, alors?
Oui, tout à fait. Quasiment 99% du travail de Rembrandt, qui est exposé dans l'ancienne bourse d'Amsterdam, un bâtiment en briques rouges situé entre la gare et la place principale, un bâtiment que l'on appelle le Beurs van Berlage, comme vous l'avez dit, du nom du célèbre architecte néerlandais. Mais parmi les 317 peintures, 285 gravures et la centaine de dessins de l'artiste présentés ici, on ne trouve aucune œuvre originale. En effet, le coût et les risques liés au transport sont tellement élevés aujourd'hui que les organisateurs ont décidé d'exposer des reproductions grandeur nature plutôt que des originaux.
Et donc les gens se déplacent quand même pour voir de simples reproductions?
Écoutez, il y a deux types de personnes. Il y a d'abord les puristes qui haussent les épaules devant de simples reproductions. Parmi eux, d'ailleurs, le directeur du musée Van Gogh. Selon lui, ses copies ne sont pas à la hauteur du talent de Rembrandt. Et puis, il y a les autres, ceux qui viennent apprécier l'évolution du travail de l'artiste sur l'ensemble de sa vie. C'est d'ailleurs un des intérêts de cet événement, puisque sont regroupées ici des œuvres normalement exposées aux quatre coins de la planète. Le visiteur peut donc redécouvrir le goût prononcé de Rembrandt pour les autoportraits, les scènes bibliques et mythologiques, redécouvrir aussi les quelques paysages qu'il a peints en fin de vie, et bien sûr le fil rouge de son œuvre, l'utilisation de la technique du clair-obscur.
Joanna, vous avez donc visité cette exposition Rembrandt. Sans tout nous dévoiler, quelles sont les surprises ?
Alors en fait, les technologies utilisées pour réaliser ces photos ont permis de reconstituer des tableaux qui étaient endommagés, volés ou perdus, des tableaux en fait qui n'avaient jamais été montrés au public avant cette exposition. Autre pièce rare, et c'est certainement une des fiertés des organisateurs, ce sont les portraits de deux illustres inconnus qui sont en fait exposés côte à côte. Pour la petite histoire, ces deux amis avaient décidé de se faire tirer le portrait par Rembrandt en 1632. Et pour immortaliser leur amitié, ils avaient demandé dans leur testament respectif que leur peinture soit exposée au même endroit après leur mort. Une volonté qui n'avait jusqu'alors pas été respectée, puisque l'une des œuvres se trouve actuellement à Hambourg, l'autre dans un musée à Londres. Aujourd'hui, dans The Complete Rembrandt, le vœu de ces deux amis est enfin exaucé.
C'est vrai que c'est un plus et c'est important. Et c'est donc à découvrir dans cette exposition. Merci beaucoup Joanna Hauschstein, vous étiez donc en direct d'Amsterdam pour nous parler de cette exposition consacrée à Rembrandt qui est jusqu'au 6 septembre à Amsterdam, ouvert tous les jours bien sûr, et l'entrée est à 12 euros. Merci encore.
je galope à moitié nu, un demi-vécu, l'hécatombe. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue, découvrir mes catacombes. Goûtant le sel et l'amertume, mes idées noires se dévergondent. Élégant mon costume de plume, quoi qu'en craque la vertu, laissant mes entrailles en plein trip.
Roi des ombres, le nouveau titre du chanteur français M.
Écoutez, moi je sais ce qu'on va voir, mais je me demande ce que les gens vont recevoir.
Culture vive, Catherine Fruchon-Toussaint.
Se déroule en Ardèche le festival du film documentaire de Lussas. Inauguré dimanche dernier, en présence également hier du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, ce rendez-vous propose une sélection de 180 films, avec pour cette 21e édition un éclairage tout particulier sur la production venant de Pologne. Elisabeth Lequéré, notre spécialiste, a rencontré Christophe Postic, co-directeur artistique de cette manifestation, qui d'ailleurs s'intitule très exactement « État généraux du film documentaire ». Explication avec le fondateur Jean-Marie Barbe.
État généraux, ça remonte à la date qui était en fait 89, c'est-à-dire le bicentenaire de la Révolution, et l'occasion de marquer d'une manière un peu symbolique le fait que ce n'est pas un festival, que les états généraux du documentaire ne sont pas un festival, mais plutôt une rencontre, et au centre de laquelle, ben, Christophe le dira mieux que moi, se jouent des affaires de sens, de réflexion sur la puissance et ce que véhiculent les images et comment elles nous aident à penser le monde. Donc les états généraux, c'est pas de la compétition, c'est une sorte de lieu nomade que s'invente la profession maintenant, qui pendant une semaine va se retrouver là, une semaine après ou plus tard va se retrouver à Montréal, va se retrouver à Berlin, va se retrouver à Leipzig, va se retrouver dans un festival comme celui de Saint-Louis du Sénégal, qui va d'ailleurs exister à partir de l'an prochain. Voilà, c'est l'idée qu'il y a des lieux comme ça, qui deviennent des lieux centraux, où en gros le cinéma documentaire se pense, se voit, et il y a une sorte d'onde de choc après ces manifestations qui font que on en parle, la culture documentaire avance et les films sont vus.
Donc Christophe Postic, donc là on parlait de Lussas 1989, aujourd'hui on peut peut-être parler de Lussas 2009. Donc Lussas, vitrine sur la production de documentaires de l'année, lieu de réflexion évidemment. Et puis cette section qui s'appelle La route du doc, qui revient chaque année. Cette année c'est une section qui est consacrée aux documentaires polonais. Alors pourquoi avoir choisi la Pologne ?
Alors on a choisi la Pologne cette année parce que chaque année on s'oriente vers des pays où souvent il y a l'existence d'un cinéma documentaire historique important, qui est aussi très lié à l'existence d'une école. Alors en Pologne c'est la fameuse école de Łódź, par laquelle sont passés Kieślowski, Wajda et d'autres, et aussi une école par laquelle sont passés des réalisateurs de documentaires dont on va présenter des films plutôt anciens mais qui ont vraiment marqué les générations suivantes. C'est un pays où il y a aussi un cinéma de fiction important, avec un équivalent d'un CNC à la polonaise. Donc dès qu'il y a un cinéma de fiction vivant et créatif, ça draine souvent aussi le cinéma documentaire. Et puis enfin, une école de formation créée par Andrzej Wajda, qui est très active sur le mode de résidence d'écriture, d'accompagnement de projet, et des sociétés de production indépendantes qui continuent de faire un travail assez, assez créatif, même si c'est aussi en lien avec des productions de télévision.
Christophe Postic, vous qui avez l'immense tâche de justement recevoir ces documentaires, les voir, les choisir, les trier, est-ce que vous voyez, vous qui êtes dans cette position privilégiée, est-ce que vous voyez des grandes tendances apparaître ?
Alors, c'est extrêmement délicat de répondre à cette question. À la fois, oui, on peut peut-être pointer parfois une tendance, et en même temps, par rapport à la production qui est vraiment très très importante, en sélection de films francophones, on reçoit sur une année environ 900 films. On peut pas déterminer une tendance. Après, nous, on peut en désigner une, parce qu'il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement. Et en règle générale, c'est ce qu'on travaille dans le cadre d'un séminaire de réflexion, où là, on invite plutôt des critiques de cinéma, des réalisateurs, des philosophes, à se saisir d'une tendance. Cette année, il ne s'agit pas d'une tendance, mais on remet sur le chantier la question du film engagé. Et on le fait en repartant de l'histoire et en regardant comment aujourd'hui de jeunes cinéastes se saisissent du cinéma documentaire et de quelle forme ils inventent pour aussi essayer d'être dans notre propre histoire au quotidien, mais une histoire politique.
Mais aujourd'hui, on voit bien que la fiction s'inspire de plus en plus du documentaire, que l'inverse est vrai. Est-ce que ça veut dire que les frontières classiques fiction-documentaire sont en train de tomber ?
La porosité des genres est un fait, mais elle est un fait en cinéma, elle est un fait dans tous les arts. D'ailleurs, il y a quand même une grande curiosité des créateurs à aller dans le champ du voisin, voire se frotter à des représentations proches, différentes, à des univers métaphoriques comme ça qui intéressent les uns et les autres.
Jean-Marie Barbe, vous qui êtes la mémoire vivante du Festival de Lussas, tous ces gens qui viennent de la France entière passer une semaine dans ce petit village perdu, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui ?
Comme ça, hein, parce que la question est effectivement, et je dirais la réponse à la question est vaste, mais avec certitude, du sens. Du sens porté par une espèce de vitalité d'un genre qui n'est pas un genre dominant, qui est un genre qui va à la fois de la production industrielle, cinéma et télé, mais aussi à l'autoproduction, avec des œuvres qui rivalisent en qualité, quel que soit leur mode de production. Et en même temps, on est dans des choses qui obéissent ou répondent à des nécessités. Nécessités individuelles, nécessités collectives. Mais en tout cas, l'idée d'un cinéma qui est loin de la gratuité, mais qui répond vraiment pour des raisons profondément artistiques et politiques au moment, au temps présent, à mon avis, c'est ça. Du sens et de la joie.
On sait que le documentaire est de plus en plus présent dans les grands festivals, Cannes, Venise, Berlin. On sait qu'en 20 ans, le nombre de documentaires produits a été multiplié par 10. Est-ce que ça veut dire que le documentaire est un genre qui va bien ? Christophe Postic.
Oui, de ce point de vue-là, il va bien, parce qu'il y a vraiment des films d'une grande qualité, d'une grande inventivité qui existent et qu'on peut découvrir chaque année. En même temps, ça s'accompagne aussi cet état de bonne santé de la production par j'ai un peu des scrupules à employer le terme, mais parce qu'il est devenu aussi très connoté maintenant. Mais il y a aussi un formatage. Alors parfois qu'il y a un formatage, je dirais plutôt réussi. On peut avoir des œuvres qui sont extrêmement bien construites, bien réalisées. Il y a de très bons opérateurs, il y a un très bon sujet, mais la question qui demeure pour nous en tant que spectateurs, ça reste celle de ce que le film met au travail, de qu'est-ce qu'il élabore, qu'est-ce qu'il déplace, et ce, autant d'un point de vue artistique que d'un point de vue politique par rapport à un récit qu'un film propose.
Jean-Marie Barbe, votre réponse, est-ce que le documentaire se porte bien aujourd'hui?
Alors, j'aurais tendance à dire que sur le terrain culturel, tous les jours, il progresse. C'est-à-dire, les gens ont d'autant plus conscience de ce que sont et ce que les documentaires leur apportent que le temps avance. Ça, ça me paraît évident. En même temps, il y a une énorme régression économique, c'est-à-dire la télé qui a permis aux documentaires d'acquérir une certaine puissance et place, aujourd'hui est en recul. La plupart des films montrés dans les festivals sont de moins en moins dans les télévisions. Donc il y a une sorte de divorce sur la partie la plus créative du doc. Donc moi j'aurais tendance à répondre, pour être simple et concis, que sur le terrain culturel ça va, mais compte tenu de la nécessité, de l'impérieuse nécessité à avoir des images qui pensent le monde et qui nous donnent des repères et qui sont en phase avec le temps, compte tenu de cette nécessité-là, le documentaire est très en deçà de ce qu'il devrait être.
Et merci à Elisabeth Le Quéré donc pour ce focus sur le festival du film documentaire de Lussas, où sont attendus environ 5000 visiteurs d'ici à samedi. Retour à Paris, où l'actualité théâtrale n'est pas en vacances, en témoigne le grand comédien Jacques Weber, inoubliable Cyrano de Bergerac, qui actuellement se produit au Théâtre Marigny. Là, jusqu'au 29 août, l'acteur reprend son spectacle intitulé « Seul en scène », un titre trompeur puisque Jacques Weber est en compagnie des plus grands auteurs classiques et contemporains. Avec humour, il fait revivre des textes emblématiques, mais souvent jugés à tort ennuyeux ou trop élitistes. Magali Menin a assisté à une représentation.
Jacques Weber vient d'entrer seul en scène. Le comédien s'accorde quelques secondes pour examiner la salle, surprise par cette entrée peu conventionnelle. Et déjà, les premières tirades fusent. Les mots se font rieurs, gaffeurs, souvent teintés de mélancolie passagère. Ils coulent, rebondissent, glissent parfois dans la voix du comédien, mais sans jamais se heurter. De Duras à Corneille, de Molière à La Fontaine, en passant par Rimbaud, c'est toute une pléiade d'auteurs qui revient à la vie dans les intonations joueuses de Jacques Weber.
Mettre corbeau sur un arbre perché, c'est l'exposé extrêmement classique d'une situation. Là, La Fontaine, il vous mâche le travail. Alors pour nous, acteurs, c'est formidable. C'est formidable parce que nous, on nous dit toujours, mets-toi en situation, mets-toi à la place du personnage. C'est évident que si je me fous sur la branche, j'ai plus de femme au bout de 5 minutes.
Au film des textes déclamés, parfois lus et souvent commentés, Seul en scène revient sur les grands moments de la vie d'un écolier devenu un jour adulte puis vieillard. Jacques Weber parvient à captiver l'auditoire avec des œuvres qui sont pourtant bien souvent le cauchemar des lycéens et qui ont laissé perplexes bon nombre d'étudiants. Après avoir de très nombreuses fois interprété sur scène ou à l'écran des personnages classiques, Jacques Weber récidive et nous livre une petite explication.
Peut-être que les classiques ont été très souvent pour moi une forme d'armure, de timidité, de façade, de mots pour ne pas me mettre en jeu. Si vous voulez, j'étais un peu à l'opposé de ce que François Truffaut appelait l'acteur nu.
18 ans après la première, le spectacle Seul en scène a connu de multiples versions, mises en scène pour la plupart par Jacques Weber lui-même. On entend d'ailleurs murmurer dans les couloirs du théâtre que celle présentée cet été au théâtre Marigny à Paris serait la plus aboutie et pourrait être la dernière. Quoi qu'il en soit, malgré la fatigue de certaines journées trop bien remplies, Jacques Weber reprend chaque soir le même rôle sans aucune lassitude.
Moi, jamais je supporte un acteur qui s'ennuie ou qui dit « j'assure le boulot, faut assurer, ce soir ça va être dur ». C'est une chance extraordinaire que d'être un des rares acteurs français qui jouait 300 fois Alceste, 300 fois Tartuffe, 300 fois Donjon, 300 fois Arnolphe, 300 fois Galilée. Si votre travail c'est votre passion, bah c'est la vie, c'est génial.
En bord de scène, posé entre ombre et lumière, un lagard des Michards, quelquefois utilisé par le comédien, de manière fictive ou bien réelle, rappelle l'étendue d'un patrimoine littéraire souvent méconnu du grand public et révèle l'ampleur de la tâche à laquelle Jacques Weber s'attelle chaque soir.
Et après Jacques Weber, Seul en scène donc en ce moment au Théâtre Marigny, nous poursuivons tout à l'heure notre tour théâtral avec Jean-Louis Martinelli pour une pièce de Feydeau. Et puis nous recevrons également l'écrivain Jean Echenoz, deuxième invité. Mais ça c'est dans 3 minutes dans la deuxième partie de Culture Vive. En attendant sur RFI, un nouveau point d'actualité.